vais vous faire un bref exposé qui reprendra des planches que j'ai prises aussi bien du séminaire sur la ville, mais aussi du séminaire sur les zones vulnérables dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Mais évidemment, dans les zones vulnérables, plusieurs présentations portées sur la ville. Alors pourquoi la ville ? Parce que désormais, la moitié de la population mondiale y vit et que cette urbanisation du monde continue à s'accélérer. Il devrait y avoir au moins 60% d'urbains en 2030 et nous sommes désormais entrés dans le siècle de la ville. Parce que les villes sont vulnérables du fait de la conjonction entre leur implantation géographique, qui est très souvent sur les côtes, le long des cours d'eau, et le changement climatique qui se traduit par des modifications des rythmes saisonniers, on en a entendu parler aujourd'hui, la multiplication d'épisodes paroxystiques, les sécheresses et peut-être une fréquence et une violence plus grande des événements hydrométéorologiques, la réduction des périodes d'englacement dans les pays du Nord, etc., etc. Ces effets du changement climatique, en outre, se conjuguent aux effets d'autres pressions anthropiques qui s'exercent sur ces milieux urbains, tels que l'artificialisation des berges, l'imperméabilisation des sols, la dégradation des écosystèmes, les îlots de chaleur, et également la complexité croissante des villes qui augmente d'autant leur vulnérabilité. Bref, comme le rappelait Laurent Lepage, un des orateurs de la session sur les villes, qui est professeur d'écologie urbaine à l'Institut de l'environnement de l'UQAD, l'Université Québec. La ville est désormais au cœur de l'agenda de l'adaptation au changement climatique et les scientifiques ont dû passer d'une préoccupation qui portait essentiellement sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes à des notions de vulnérabilité des populations, des communautés, des villes et même de l'individu. Et l'histoire récente nous a prouvé que d'une part, l'histoire tout court, puisque Emmanuel nous a parlé avec éloquence de la profondeur historique des catastrophes. Donc en tout cas, l'histoire récente nous prouve que les problèmes liés au changement climatique plus particulièrement sont là, déjà. On ne va pas attendre des dizaines d'années pour y penser, et que ce ne sont pas seulement les pays pauvres qui sont concernés. Les villes des pays riches ne sont pas épargnées. Katrina est un prototype de ce qui s'est passé en termes de catastrophe dans le pays le plus puissant du monde. Xynthia, pour revenir chez nous, et il y a d'autres inondations chaque année en France, montre que même avec des dispositifs plutôt sophistiqués de prévision et de gestion des catastrophes, nous avons toujours un nombre conséquent de morts, des désastres économiques bien sûr, et également des choses dont on parle très peu, qui sont les stress post-traumatiques des populations par exemple. Dans notre séminaire, il ne s'agissait pas du tout de faire un état des lieux de tout ce qui s'est fait sur la ville, les connaissances, les avancées sur la question. Notre objectif était d'explorer des champs qui nous semblaient particulièrement pertinents et souvent encore insuffisamment documentés pour arriver à une approche intégrée de comment aborder les défis qu'affrontent les villes et de pouvoir commencer à penser, pour nous, au sein du GIS, des programmes de recherche qui pourraient être liés aux stratégies destinées à préparer les villes aux chocs futurs qui seront certainement plus durs et plus fréquents. Alors, pour planter le décor, déjà, pour nous, une ville, ce n'est pas simplement une question de densité, c'est également, c'est un écosystème qui est lié à l'ensemble des territoires qui avoisinent, mais également qui peuvent être très lointains quand on parle, par exemple, de l'acheminement des combustibles ou même des aliments, même si on voit bien ça dans un pays comme la France, qui est un pays agricole, et pourtant nous faisons énormément d'exportations de produits agricoles. Et par ailleurs, l'adaptation, nous l'avons prise aussi dans un sens plus large, en ne voulant pas nous pencher sur qu'est-ce qui est mitigation, qu'est-ce qui est adaptation, mais en parlant d'adaptation mitigative, donc qui reprend la question de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et également l'ajustement des systèmes aux effets actuels et futurs des changements climatiques. Ce qui nous porte immédiatement à considérer l'exposition, la sensibilité des villes, et qu'on met ceci sous le titre général de vulnérabilité. Alors, des vulnérabilités urbaines, j'en ai déjà parlé, les zones densément peuplées, à des endroits qui sont particulièrement vulnérables aux différents accidents climatologiques, les montées d'eau, on a même parlé de diminution de l'épaisseur de la banquise ici, des accidents d'origine hydrométéorologique, les inondations, les tempêtes en France par exemple. Et ici, nos amis canadiens nous ont montré ce qui se passait au nord du Canada sur les pergélisols, où il y a des maraques, des maisons qui s'effondrent parce que le pergélisol diminue. Le cas d'école dont j'ai parlé tout à l'heure, Katrina. Je ne vais pas refaire le tour des différentes interactions de causes qui ont provoqué Katrina. Sur notre site, vous verrez la présentation d'Isabelle Marais, qui a vécu à la Nouvelle-Orléans pendant Katrina. Elle était professeure à l'université là-bas. Elle a travaillé 2 ans après, encore à la Nouvelle-Orléans. Puis maintenant, elle est à l'université, à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Et donc, elle a très bien analysé tout cela et elle a fait beaucoup de papiers qui sont facilement accessibles. Je vais reprendre simplement une citation de François Mancebo dans Les politiques d'aménagement de la Nouvelle-Orléans à l'épreuve de Katrina, où il rappelle que les conséquences de Katrina n'étaient pas seulement prévisibles, mais elles étaient prévues. Ce n'est pas le cyclone Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans. Ce sont les inondations qui ont suivi l'effondrement d'élevés. Ce ne sont pas les inondations qui ont suivi l'effondrement d'élevés qui ont dévasté la Nouvelle-Orléans. C'est la non-prise en compte d'une information régulatrice qui existait depuis des années. Ce sont des défaillances en chaîne du système d'alerte et des secours au moment de la catastrophe. Ce sont, sur une plus grande échelle de temps, des pratiques d'aménagement aberrantes dont la toute première fut de laisser prospérer une agglomération presque entièrement située en dessous du niveau de la mer. La catastrophe urbaine majeure causée par Katrina est fondamentalement la conjonction entre événements extrêmes, incapacité politique et inconscience collective. Un autre exemple de désastre humain sont ceux qui sont liés à la canicule. Des études épidémiologiques menées partout dans le monde montrent que la mortalité journalière augmente avec l'augmentation de la température ambiante, surtout le jour ou celui qui précède la mort de la personne. Par contre, selon les villes du monde, selon les endroits du monde, le seuil de température est différent. Audrey Smargiassi, qui est, comme son nom ne le dit pas, une Montréalaise qui travaille à Uranos, à Montréal. Uranos, c'est un consortium qui travaille sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Donc, André Smargiassi nous a montré comment Uranos a cherché à répondre à des questions du type si les risques pour les gens localisés dans les micro-îlots de chaleur urbaine, institutions ou maisons, étaient plus élevés lors des journées de canicule. La réponse est oui, mais évidemment d'autres facteurs interviennent et c'est des micro-études qui ont permis pour eux de mettre en évidence l'étage de la résidence, évidemment la présence ou non d'air conditionné, les caractéristiques des fenêtres, l'exposition au soleil sans s'en serait douté, les matériaux de construction, également le degré de végétalisation autour des logis et aussi les habitudes de vie. Et avec toutes ces informations, ils ont construit un modèle permettant de prédire la variation intra-urbaine de l'exposition en y ajoutant une dimension temporelle et qui pourrait être utilisée pour prédire la température intérieure sous divers scénarios. Une autre manière d'aborder cette question des températures étouffantes, des chaleurs étouffantes, a été celle qui a été suivi par l'équipe de Toulouse dont la coordinatrice est Cinda Aouès-Jouve, qui non seulement s'est préoccupée de ces microclimats, cette fois-ci à l'extérieur, mais également a mis ce que Emmanuel tout à l'heure a appelé la chair humaine, en se penchant sur la personne, son expérience sensorielle, ses représentations, sa sensibilité. Donc, comme vous voyez, je ne vais pas vous exposer l'étude, mais deux zones en périurbain de Toulouse ont été déterminées, avec des critères de variabilité paysagère et d'hétérogénéité climatique. Des campagnes ont été faites à vélo. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe avec mes diapos. Je ne sais pas si c'est le Mac. Vous avez eu déjà de la chance d'avoir quelques diapos. Enfin, il ne peut pas avoir. Je travaille sur un Mac et tout à l'heure, on n'arrivait pas à ouvrir le fichier, mais là j'ai perdu des images au passage, mais elles sont toutes sur le site. Donc il y a eu des campagnes de mesure avec vélo instrumenté, des relevés des unités paysagères, savoir si c'était très végétalisé, très bétonné, etc. Et puis donc des entretiens semi-directifs auprès d'échantillons de population pour construire des référentiels climatiques. Donc, ces questionnaires ont montré des corps sensibles, j'aime bien la façon dont c'est décrit, donc, où la température, mais aussi le vent, l'humidité, la lumière ont un impact sur le vécu thermique. Il y a une sensibilité plus ou moins importante aux écarts et aux contrastes, et évidemment des capacités de thermorégulation différenciées, donc entre sexes, on le sait, mais aussi suivant l'âge, etc. Et ces recherches sont particulièrement intéressantes quand on pense à la construction de plans canicules, car on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de plans globaux de lutte pour la préservation de la santé des personnes, puisque on a aussi bien des indices, des critères de logement, des critères économiques, mais aussi des critères psychophysiologiques qui entrent en jeu. Et ça nous donne des clés pour penser un service véritable d'aide aux personnes en période d'extrême climatique. L'autre jour, Laurent Lepage, avec qui nous avons eu une journée de travail la semaine dernière, nous racontait par exemple que dans l'étude qu'il fait actuellement à Montréal, dans un quartier de Montréal, il a été voir des personnes pour des questionnaires et on leur avait dit qu'il y avait des centres de rafraîchissement à tel et tel endroit. Le problème, c'est que ces personnes ne pouvaient pas s'y rendre. Donc, le plan canicule était un peu caduque pour le coup. Je passe maintenant à quelques travaux autour de l'adaptation qui ont été abordés. Alors évidemment, quand on pense ville, on pense réseau. Uranos a de gros programmes là-dessus, mais je parlerai de... Ah, alors, en plus, il manque un... Bon. Mais je parlerai de ce que nous a exposé Benjamin Garneau dans le projet Invulnérable qu'il mène avec d'autres laboratoires français pour une coproduction de données afin de construire des stratégies d'adaptation pour les entreprises. Il a pris le cas des réseaux de chaleur qui est la société d'Alkia, qui apparemment est celle qui s'occupe à Paris des réseaux de chaleur, se pose de la question de savoir si ces réseaux seront adaptés, tiendront le coup, suite aux modifications d'environnement résultant du changement climatique, et ça à cause de leur expérience au Texas, où la gestion de leur réseau est rendue difficile par les variations importantes de température au sein d'une même journée. Et donc, ils ont créé un indicateur pertinent pour Dalkia, qui est l'évolution des variations de température intrajournalières. D'autres études qui n'ont pas été abordées lors de notre journée ville, mais qui ont fait l'objet d'un séminaire spécifique, est celui des trams vertes. C'est une problématique qui rejoint celle dont Paul a parlé un peu plus tôt, celle des services écosystémiques. Est-ce que les trams vertes sont susceptibles de rafraîchir la ville, de traiter l'air? Est-ce qu'elles peuvent jouer un effet d'éponge en cas d'inondation? Est-ce qu'elles peuvent aider à traiter l'eau, etc.? On a un engouement terrifiant pour les trams vertes dans notre pays en ce moment, mais beaucoup de connaissances ne sont pas là pour éviter des maladaptations. Alors Robert Votard disait par exemple que parfois les arbres sont plus porteurs de types de pollution par les particules, si je me souviens bien. Non, je ne sais plus ce que tu nous avais dit. Ah, tu t'en souviens pas. Bon.
C'est l'ozone, en fait. Pour les problèmes d'ozone, en fait, il y a des émissions.
Bref, on discute. Excuse-moi. Voilà. Donc, nous avons lancé un programme de réflexion qui est mené par le LADIS et par un chercheur du LADIS sur une synthèse des différents résultats que l'on a pour l'instant et qui sont loin d'être suffisants. Par ailleurs, on a eu un Canadien, toujours d'Oranos, qui nous a parlé de la gestion intégrée des zones côtières du golfe Saint-Laurent. J'y suis arrivée. Où il nous a décrit une structure participative qu'il a mis au point pour décider sur une petite ville sur le golfe, où il va y avoir à un moment un ensemble de baraques, de maisons qui vont tomber. Il y en a déjà, mais qui vont continuer. Et avec la population, il s'est agi de savoir ce qu'on préservait, ce qu'on gardait. Et cela, ça ressemble énormément à ce que Jean-Paul nous a raconté pour Santander. Donc, il y avait les scientifiques, il y avait la partie gouvernance, il y avait la société. Ils ont fait donc créé un noyau de leadership. Ils ont fait un rapport au bout de 2 ans. Mais le suivi sera assuré par les habitants de cette ville. Les scientifiques se sont retirés et ils ne viendront que si on leur demande. C'est une chose à laquelle ils tenaient beaucoup. C'est pas la peine de rire. Alors, en guise de conclusion provisoire, nous avons exploré la question de l'adaptation au changement climatique des villes en faisant parler d'emblée des chercheurs qui s'inscrivent dans une analyse des interactions entre les différentes sphères des écosystèmes, éco-sociosystèmes urbains. Là, j'ai repris une diapo que nous avait montrée Christiane Weber, qui avait parlé de la ville comme système complexe. Donc, on a 4 sphères. Et nous avons donc des propositions comme les services écosystémiques, l'idée d'une ville saine, où il s'agit donc d'adapter la ville à ses habitants, pas le contraire. Et tout ça, c'est pour arriver à des processus de résilience et d'adaptation qu'on espère robustes, tout en sachant que les incertitudes seront toujours là. Donc on a parlé beaucoup d'incertitudes ce matin. Moi, je rappellerai que dans Ascenseur pour l'échafaud, pour ceux qui le connaissent, le crime était parfait, mais la panne de l'ascenseur n'était pas prévue. Et il y aura toujours des accidents, quoi qu'il en soit, de ce genre dans nos modèles. Donc il n'y a pas seulement l'incertitude sur la connaissance, il n'y a pas seulement l'incertitude sur les processus, il y a une incertitude qui est fondamentale de la vie. Donc maintenant, qu'allons-nous faire à partir de cela, nous avons commencé à discuter de comment dégager des lignes directrices pour de futures recherches. C'est notre horizon dans les 2 prochaines années à venir. Rendez-vous donc l'année prochaine pour où on en sera. Nous sommes très intéressés à regarder le fonctionnement d'Uranos, qui est donc ce consortium sur les changements climatique qui a été créé au Québec, parce que c'est un institut qui essaye de faire, de lier le politique, les chercheurs, et qui est très tourné vers des stratégies de participation des citoyens. Ils ont 10 ans de vie, le GIS même plus, oui, 10 ans de vie. Donc le GIS, nous sommes encore tout jeunes, ça nous intéresse. Et je ne résisterai pas à vous dire que les villes, elles ne nous attendent pas. Il y a depuis longtemps certaines se sont mises en ordre de bataille pour devenir durables. Le changement climatique s'est ajouté là-dessus. Par exemple, Chicago, bien avant de faire un plan climatique, bien avant qu'elle pense en faire un, a commencé à se verdir. Pour ceux qui connaissent cette ville, cette photo est assez étonnante. Moi, j'y étais allée dans les années 80. C'est une de mes villes préférées au monde, mais jamais j'aurais pensé qu'on puisse faire ça. Et non seulement elle a verdi, cette ville, mais on réhabilite les terrains pollués et il y a un programme de Green Alley. Donc, service écosystémique qui vise à éviter les débordements sur les voies publiques lors de fortes pluies. Les chaussées sont rénovées à l'aide de matériaux recyclés, ce qui évite à la ville de reconstruire un système coûteux. et pour diminuer l'îlot de chaleur et dépoussiérer l'air ambiant. Donc Chicago non seulement se végétalise, mais également remplace les surfaces sombres par des surfaces plus claires et utilise des technologies écologiques pour la conception de nouveaux édifices publics. En France, où on en est? Eh bien, je vous invite à lire l'opus que l'ONERC vient de publier, où sont analysées toutes les expériences faites en France et où l'on parle des programmes qui existent sur le sujet. Vous avez une des auteurs ici, Lynn Février. Nous sommes encore loin du compte, mais on se met au travail. Merci.